Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle édition des Nocturnes de la Santé. Cette fois-ci, comme vient d'être annoncé, avec un thème essentiel, les maladies infectieuses. Plusieurs études sont arrivées à la conclusion que les maladies infectieuses sont un des plus importants risques auxquels l'humanité entière doit faire face. Ce n'est pas nouveau, nous le savons depuis la peste au Moyen Âge. Mais la globalisation a énormément accru les risques d'expansion, comme on a vu ces dernières années avec la grippe aviaire, les SARS, la grippe H1N1, les MERS, ou plus récemment avec l'épidémie d'Ebola. En Occident, on s'inquiète de quand virus arrive près de chez nous. L'exemple le plus clair est celui de l'Ebola, qui a fait des ravages en Afrique occidentale avant que l'Organisation mondiale de la santé, les CDC américains ou les grands capitales commencent à se préoccuper du problème. Or, la question qu'on doit se poser ce soir est celle de savoir pourquoi la maladie a tué des centaines de personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone avant qu'on le sache. Et la réponse est simple, parce que ces pays-là ont des systèmes de santé précaires et totalement fragilisés, qui n'ont été capables ni de détecter qu'il y avait un nombre exceptionnel de morts, ni d'identifier la cause de ces décès. Ce n'est pas seulement qu'ils n'avaient pas les moyens d'identifier le virus de l'Ebola, ils n'avaient même pas la capacité de prélever en sécurité une goutte de sang pour l'analyser. Les résultats, nous les connaissons tous, un bilan de plus de 11 000 morts, parmi lesquels 500 travailleurs de la santé. Combien a coûté à la communauté internationale la lutte contre l'épidémie d'Ebola? Et combien auraient en amont coûté les mesures pour établir des systèmes de santé solides? J'ai proposé l'exemple d'Ebola, mais on pourrait parler des 250 000 morts annuelles de choléra ou du risque que pose la dengue, à laquelle doit faire face plus de la moitié de l'humanité. Ou pourquoi pas citer le virus Zika, qui ces dernières jours fait des ravages au Brésil, où plus de 200 enfants sont nés cette année avec des anomalies cérébrales à cause de la piqûre d'un petit moustique. Et que ce soit le contrôle du vecteur, les contrôles épidémiologiques, la capacité d'isolement, la formation des travailleurs de la santé ou la solidité des systèmes de santé, tout dépend de l'argent, des investissements. Mais l'argent ne tombe pas du ciel, comme tout le monde sait, et même avec l'aide des institutions de financement internationales, les gouvernements doivent faire des choix. C'est une décision économique en plus que sanitaire. Jeffrey Sachs, dans une étude présentée à l'OMS, a démontré que pour chaque dollar investi dans la santé publique, on économise 7 dollars de dépenses. Ce soir, avec 6 éminents experts, nous allons essayer de comprendre un peu mieux comment ces processus de décision fonctionnent et quelles sont les actions plus effectives à moindre coût. Ce soir, on aura deux tables rondes avec deux intervenants. La première, qui sont ici à ma droite, et trois, la deuxième, qu'on remercie d'abord d'avoir accepté d'être parmi nous. Et comme M. Le Maire vient d'annoncer, on compte avec M. Alain Muriot qui va intervenir chaque fois qu'il veut. Il va le côté chaque fois qu'il veut. Alors, faites comme ça. Je vous donne. Voilà. Alors, on commence pour M. Jocelyn Toulier. Vous êtes spécialiste de l'économie de la santé dans les pays en développement et notamment sur l'impact des maladies infectieuses, que c'est le thème de la soirée, c'est pour cela que vous êtes là. Vous travaillez notamment sur ce qu'on appelle l'économie épidémiologique. L'objectif est de mieux comprendre les mécanismes pour favoriser l'utilisation de mesures préventives comme les vaccins et curatifs et informer les décideurs sur les actions à entreprendre. Pourriez-vous nous expliquer avec un peu plus de détails votre travail et surtout pourquoi est-ce si important que ça?
Bonjour.
Ça marche. Parler, okay.
Merci pour l'invitation déjà et puis merci pour la présentation. Je travaille effectivement en économie de la santé dans les pays en développement, également en Europe, mais principalement dans les pays en développement, surtout en Afrique, et notamment sur le paludisme au Mali avec un centre de recherche qui s'appelle le Malaria Research and Training Center du professeur Ogo Baradumbo. Et je dirais que pour résumer un peu l'approche économique, le grand public généralement voit les économistes de la santé comme des gens qui calculent des coûts ou font des ratios coût-efficacité. Alors moi j'en fais un peu, mais ce n'est pas le gros de mon travail. Je travaille principalement sur quatre aspects. Le premier, c'est l'impact de la maladie sur le développement économique essayer d'approfondir les canaux d'impact et les mécanismes d'impact de la maladie sur le processus de développement économique d'un pays. Le deuxième aspect, c'est la relation inverse. On sait tous, avec la courbe de Preston, qu'il y a une corrélation bidirectionnelle entre santé et niveau de revenu. Et donc, il faut aussi également comprendre la relation inverse du revenu sur la santé. Donc, par exemple, M. Mérieux donnait un exemple, mais il y a des études également qui sont sorties qui montrent que dans les quartiers les plus pauvres de Glasgow, l'espérance de vie est plus faible que la moyenne de l'espérance de vie en Inde. Donc c'est un exemple assez révélateur de l'hétérogénéité qu'il peut y avoir au niveau des situations de développement. Le troisième point, c'est donc l'épidémiologie économique, qui consiste en fait à utiliser des modèles épidémiologiques classiques, mais à introduire dans ces modèles des comportements humains dits économiques ou parfois rationnels, afin de mieux comprendre comment les individus eux-mêmes réagissent à la prévalence de la maladie, au risque de l'épidémie, et ensuite se répercute la connaissance du risque sur leur comportement individuel. Et le dernier point, donc c'est un point beaucoup plus pratico-pratique, c'est l'analyse des politiques publiques dans lequel rentre l'évaluation médico-économique, l'analyse coût-efficacité, l'analyse de coût dont on aura certainement des exemples aujourd'hui.
Alors, pour bien comprendre, en pratique, quels sont les outils que les gouvernements ont, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut les aider, qu'est-ce qu'il faut pour réagir à stopper les épidémies?
Alors déjà, bon, vous avez cité la commission macroéconomique de Jeffrey Sachs, donc on sait que depuis les études de Sachs en particulier, on sait que la santé a un impact important sur la croissance économique. Et donc, il y a eu, depuis le rapport de la commission Sachs, donc depuis les années 2000, une explosion de l'aide à la santé dans les pays en développement, notamment de l'aide verticale pour lutter contre le paludisme, que je connais plus particulièrement. Donc, ça fait partie d'une des réponses apportées par la communauté internationale aux pays en difficulté pour gérer leur système de santé. Donc, ça, c'est d'un. Sur le paludisme en particulier, il y a eu un essor énorme de l'investissement qui semble avoir été efficace puisque le nombre de cas de paludisme, semble-t-il, a beaucoup diminué en Afrique subsaharienne, bien que ça reste des estimations. On n'est pas certain du déclin exact. On est à peu près à 198 millions de cas de paludisme à l'heure actuelle et 500 000 décès de cas de paludisme. Donc ça, c'est une première chose. L'aide au développement et l'aide à la santé peut permettre de réduire les problèmes de santé. Par contre, les besoins sont énormes. On estime, par exemple, pour le paludisme, à 5 milliards à peu près d'euros ou de dollars, de dollars, les besoins pour l'aide, pour lutter contre la maladie. Simplement pour la contrôler, hein, pas pour l'éradiquer. D'ailleurs, on ne parle pas d'éradication, mais d'élimination. Et donc, on est à l'heure actuelle seulement à 50% de ce niveau de financement, et donc les besoins restent énormes. Donc il y a un problème de financement, un problème probablement d'organisation des systèmes de santé, mais également un problème au niveau de la recherche qui émane des pays en développement eux-mêmes, c'est-à-dire la promotion de la recherche dans ces pays en développement pour lutter contre des problèmes concrets que ces pays connaissent est également importante dans ce puzzle.
Et avec l'esprit de vulgarisation qui nous a réunis ce soir ici, pour aller encore un peu plus loin avec l'exemple, vous êtes expert de paludisme au Mali. Expliquez-nous des exemples concrets de qu'est-ce qu'ils ont fait qui a bien marché, des échecs avec les conflits comme ils viennent de passer. Je crois que ça a tout arrêté. Donnez-nous un peu.
Alors, le cas du Mali est quand même assez particulier sur lequel je travaille, puisque le Fonds mondial a investi au Mali une somme quand même assez importante, et les investissements se sont interrompus plusieurs fois pour des questions d'utilisation non conforme des ressources du Fonds mondial aux recommandations du Fonds mondial. Donc il y a eu plusieurs interruptions qui montrent les difficultés également de l'audit de l'aide à la santé. Donc, du fait de problèmes politiques, du fait du conflit malien, l'aide du Fonds mondial s'est interrompue sur l'aide au paludisme, la tuberculose et le sida. Deuxièmement, si on veut parler d'un exemple vraiment concret, les études que nous menons, donc je disais qu'il y avait quatre volets, hein, donc là je vais revenir sur le volet impact de la maladie sur le développement et analyse des canaux d'impact. Nous avons récemment mené une étude randomisée, donc c'est avec un protocole aléatoire, dans la région de Sikasso au Mali, où en fait nous donnons des traitements préventifs intermittents aux enfants scolarisés. L'objectif de l'étude était de regarder l'impact de ces traitements préventifs intermittents, donc en saison des pluies, non seulement sur la santé, mais aussi sur l'éducation, qui est un des facteurs de développement des futures générations, et sur la cognition des enfants, la capacité d'apprendre. L'étude montre que le traitement préventif intermittent réduit la prévalence de paludisme de 70% d'infectés à 2% d'infectés. Deuxièmement, l'étude montre également donc un fort impact sur la santé, évidemment. L'étude montre également qu'il y a un impact non négligeable sur la cognition et également un impact de la maladie, des formes asymptomatiques de la maladie, donc le fait d'avoir la maladie sans symptômes cliniques, sur la cognition des enfants. On sait également que le paludisme est le premier facteur médical d'absentéisme scolaire dans la zone. Et on a montré également qu'au Mali, lutter contre le paludisme permettait de réduire les taux de redoublement et d'augmenter le niveau de performance scolaire des enfants. Donc c'est un exemple concret d'études sur le terrain que nous avons menées. Il y en a d'autres, évidemment, et il y en a aussi sur l'épidémiologie économique, où, par exemple, nous avons mené des recherches cherchant à évaluer l'effet de l'introduction de la gratuité d'un traitement sur la prévention. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui reçoivent un traitement gratuit très efficace vont avoir tendance à réduire leur comportement préventif, utilisation des moustiquaires, utilisation d'autres mesures préventives. Et donc, ce serait en fait ce qu'on appelle une externalité négative en économie, c'est-à-dire un effet non attendu, indésirable, d'une subvention à la santé qui, finalement, vient impacter la prévention de façon négative. Donc, c'est un peu pour balayer le champ des possibles des études qu'on réalise.
Monsieur Murieux, avec combien d'écouter, tout ce qu'on peut faire, et malgré ça, on a seulement 50% de ce qu'on a besoin.
Oui, écoutez, d'abord, je dirais que l'Afrique, qui est un continent que nous avons beaucoup, va avoir une population qui va plus que doubler. Il y aura à peu près, on en compte en 2050, qu'il y aura 2,5 milliards d'Africains sur le continent, ce qui est déjà donc considérable. Donc une natalité et qui prouve également des conditions de santé publique bien meilleures. Et l'Afrique a des médecins assez remarquables. Je vois le Mali, moi, tous ceux avec qui je travaille, que ce soit Boubara Doumbo, Diallo, compagnie, c'est tous des gens d'une qualité exceptionnelle. Par contre, il y a dans le domaine de l'industrie pharmaceutique un grand drame, c'est celui des faux médicaments, des médicaments de rue, qui est tenu par des mafias. C'est mafieux. Hein. Il ne faut pas chercher autre chose que c'est souvent des mafias qui corrompent, comme toutes les mafias, et qui sont dangereuses. Puisque mon ami Pierre Fabre avait été invité il y a une vingtaine d'années par le Nigeria pour faire une étude là-dessus, le faux médicament. Le premier soir où il est arrivé, sa voiture a été rafalée au fusil mitrailleur, les roues. Donc il a compris, il a repris son avion. C'est un avertissement. C'est mafieux. Deuxième chose qu'il y a, c'est que l'attitude de l'industrie pharmaceutique a totalement changé par rapport à l'Afrique. Moi, je cite souvent mon vieil ami, le patron de Sanofi, Jean-François Dehec, qui est arrivé à s'implanter sur place et avoir une politique de tarifs qui n'a rien à voir avec la France. Et je dirais qu'il a été un précurseur en ce domaine, qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont changé complètement leur aspect et jouent l'Afrique d'une façon différente. Et puis, il y a un nouvel invité sur la Chine que nous connaissons bien. En Afrique, c'est la Chine. Et qu'aujourd'hui, le professeur Shenzhou, qui était ministre de la Santé, qui est un grand ami, chaque fois qu'il venait en France, allait visiter ses médecins, ou dans le Rif marocain, ou au Cameroun, ou ailleurs. Donc les Chinois sont très présents. Ils ont créé, je crois, à peu près une vingtaine d'hôpitaux ultra performants. Et il y a eu des journées, il y a peu de temps, avec la ministre de la Santé et les ministres de Chine au Cap. Et il y a la semaine dernière, la première dame de Chine et le président chinois étaient à Johannesburg pour parler également de santé en Afrique. Donc l'Afrique est devenue très connue de tout le monde maintenant, respectée, et deuxièmement, elle a une approche très particulière. Il y a un seul point sur lequel je rajoute qui est valable partout. Quand on peut s'occuper de santé publique, il faut former, il faut entraîner, il faut être présent, et il faut, en amont de tout ça, la sécurité physique. C'est un point qui m'a beaucoup frappé quand on était en Haïti il y a peu de temps. Tant que vous n'avez aucune sécurité dans la rue, vous ne demanderez pas à des gens d'intervenir. Donc la première condition, et des pays comme le nord du Cameroun aujourd'hui avec Boko Haram, comme le nord du Mali, comme beaucoup de pays, s'il n'y a pas la sécurité physique, il n'y a plus de médecine.
Il n'y a plus de recherche.
On va continuer avec la table ronde qu'on a beaucoup montré. Alors, on va écouter Lise Rocher. Vous êtes experte en économie de la santé. Vous êtes présidente de la commission d'évaluation économique et de la santé publique. Et vous avez été chargée des missions sur les questions des politiques de santé au ministère des Finances. Ce soir, vous voulez nous parler de l'enjeu des investissements dans les domaines de la santé pour les pays en développement. Sont eux les pays émergents qui doivent prendre la décision avec peu de ressources, et beaucoup d'options. Décider quelle est la priorité n'est jamais facile. Alors expliquez-nous ces processus d'évaluation économique, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je n'ai pas résisté à la tentation de, et j'espère que vous voudrez bien m'en excuser, de faire des diapositives, parce que je me sens, je pense, peut-être plus à l'aise avec un petit support. Et puis, ça aura peut-être un intérêt pour revoir par la suite un petit peu certains des points pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup pour ces questions. Et puis pour ce paradoxe qui n'est pas apparent, je te rassure, dans la relation compliquée qu'entretient la santé avec l'économie ou l'économie avec la santé, et avec, donc paradoxe avec lequel je vis maintenant depuis bientôt 30 ans, puisque ces questions sont des questions qui sont des questions fondamentales autour de l'éthique et de savoir si on peut réconcilier l'économie et le monde de la santé autour de valeurs éthiques. Et je pense que l'évaluation, justement, révèle ces questions fondamentales. Et donc, je suis amenée à présent, puisque j'ai quitté la Haute Autorité de Santé où j'étais présidente de la Commission d'évaluation économique et de santé publique à la fin de mon mandat. Et je suis maintenant à Paris 1 où j'ai le plaisir de côtoyer Jocelyn Tulliez, entre autres, membre de Paris 1. Et je pense que je suis en train de prendre le virus de ce sujet passionnant qui est celui des pays en développement ou pays émergents, en rejoignant finalement une équipe qui travaille déjà sur ce sujet. Et avec, on en parlera tout à l'heure, finalement une petite structure qui s'appelle Ospinomix et qui donne des degrés de liberté pour que des économistes puissent travailler sur des sujets ensemble, comme par exemple celui de santé, économie de la santé, économie du développement, tel que le fait Jocelyn à Paris 1. Donc voilà une petite introduction, juste pour dire que ce sujet de la relation entre l'économie et la santé est un sujet pour moi, je dirais, durable, on va dire, soutenable, je l'espère, et en tout cas qui va essayer d'animer les réflexions et les éléments de définition que j'ai souhaité partager avec vous sur cette question excellente, quand bien même un petit peu coupée par le fil. Hein, le mot important, c'est le mot bon dans cette présentation et dans cette invitation à réfléchir sur les choix prioritaires et les investissements. Que veut-on dire par bon et bon pour qui? Je pense que ce sont effectivement les questions qu'on se posera derrière ce fil imaginaire que nous avons ici. Alors, des éléments de contexte pour certains d'entre vous, je suis persuadée que ce sont des éléments connus, mais je pense qu'on a vraiment besoin de se rappeler que les pays émergents, ça n'est pas l'ensemble des pays en développement, quand bien même les problématiques sont souvent communes. Donc, c'est vrai qu'on va différencier les pays émergents comme sur une base socio-économique, hein, essentiellement, avec un niveau de croissance en général très soutenu, un niveau de revenu qui est mesuré par le PIB par habitant qui est bien sûr inférieur à celui des pays développés, mais comparativement à d'autres pays en développement, ce sont des pays qui sont des marchés potentiels, comme le rappelait à l'instant M. Mérieux. Et donc, en ce sens, on va se restreindre effectivement plutôt et en complémentarité de ce qui a été présenté par Jocelyn au sens strict des pays émergents, c'est-à-dire essentiellement Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et le temps imparti étant assez court, on ne parlera que de quelques illustrations, notamment sur la Chine. Mais c'est quand même 40% de la population mondiale et 20% du produit intérieur brut mondial, donc c'est quand même une part très importante de l'économie mondiale. Alors, on le sait, et là-dessus je passerai peut-être un peu plus rapidement, on voit une croissance très rapide des dépenses de santé. On voit que la Chine est le troisième marché mondial de la santé, ce qui confirme ce qui était dit précédemment. Une demande de soins qui croît plus vite que le revenu, ce qui veut dire concrètement que la part des dépenses de santé va augmenter plus rapidement que la richesse que l'on mesure par le PIB, et que certains, dont le Boston Consulting Group, ont fait, c'est toujours un peu héroïque, mais des estimations qui en l'occurrence indiqueraient que 50% des dépenses de santé mondiales seront issues en 2022 des pays émergents. Donc c'est pour vous donner ces quelques éléments de contexte. Alors qu'est-ce qui tire cette croissance des dépenses de santé? Bien sûr, la croissance économique au premier chef. Et on évoquait tout à l'heure la relation entre santé et croissance, qui est un sujet privilégié de certains économistes comme Philippe Aguillon. De nouveaux besoins qui, en fait, sont essentiellement issus des classes moyennes qui sont devenues plus nombreuses dans ces pays. Des changements démographiques qui vont affecter de manière très importante la structure des dépenses, tout comme chez nous, à savoir l'allongement de l'espérance de vie et le ralentissement des taux de natalité. Et puis l'urbanisation qui modifie profondément les modes de consommation, les modes de vie, et qui conduit à ce que nous vivons aussi, c'est-à-dire l'accélération des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Donc on voit qu'on partage beaucoup finalement de ces éléments de croissance, de ces déterminants de la croissance des dépenses de santé. Alors, les réponses qui ont été données sont essentiellement des réponses en termes d'extension de la couverture médicale. Et à ce titre, l'exemple de la Chine est éloquent, puisqu'on évoquait son ministre de la Santé récemment, qui a quand même réussi à faire passer la couverture en 2013 de la population à presque 96% dans un temps très court, puisqu'il l'annonçait en 2009. C'est une gageure quand on pense qu'il s'agit de 1,2 milliard d'individus qui aujourd'hui bénéficient de cette assurance médicale. L'Indonésie s'est aussi engagée plus récemment vers la couverture santé universelle, qui est une politique qui est très soutenue par l'OMS, et l'on voit cette généralisation qui est très importante. Et puis on voit aussi, bien sûr, l'expansion, je dirais, en effet miroir de l'infrastructure médicale, avec un nombre d'hôpitaux, ne serait-ce que pour la Chine, qui laisse un petit peu rêveur quand on voit le nombre d'hôpitaux et le nombre de lits. Ou rêveur, je ne sais pas, c'est une question dont on pourra discuter, mais c'est tout à fait étonnant. Et ce qui est intéressant aussi, et qui, je pense, va tout à fait dans le sens des résultats que les épidémiologistes ont pu nous donner, c'est qu'on a, dans le même temps, et en parallèle, de gros investissements dans l'éducation, sachant que l'éducation est peut-être un des éléments qui permet d'améliorer l'état de santé des populations, au même titre, et pour certains épidémiologistes, parfois plus, que les dépenses de santé, ce que l'on a tendance à oublier quand on raisonne uniquement dans le secteur de la santé. Donc on voit ces investissements dans l'éducation qui sont très importants, qui sont parallèles à ceux qui sont consentis dans la santé. Et puis, une place qui devient importante pour les investisseurs privés. Alors, on a parlé effectivement des investissements en médicaments génériques. On voit que jusqu'ici, l'attrait, c'était essentiellement de pénétrer finalement les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. C'était évoqué en introduction. Aujourd'hui, c'est une présence sur ces marchés-là, marchés locaux en pleine expansion, qui est en fait dans l'objectif. Et on a quelques exemples sur lesquels je passe pour rester dans les temps. On a des opérateurs, bien sûr, qui sont essentiellement des opérateurs de cliniques et d'hôpitaux privés et qui vont répondre à la demande. On parlait tout à l'heure de cette demande en Chine d'une classe moyenne et qui veut, bien sûr, une meilleure qualité du moyen à haut de gamme. Et puis, ce fameux tourisme médical dont on parle beaucoup. Et à ce stade, c'est important de se poser, bien sûr, la question de savoir s'il s'agit de ce bon investissement. Est-ce que c'est effectivement le bon investissement pour les pays émergents ? Certains mettent en avant le fait que le développement du tourisme sanitaire, par exemple, va entrer en compétition avec les priorités des systèmes nationaux. Je pense que ce sont des questions qu'il nous faut poser. Alors, les enjeux, ils ont été identifiés par une étude assez récente de l'Association internationale de sécurité sociale, la ISS, et qui reprend, je pense, beaucoup des éléments qui viennent d'être évoqués en introduction. On a bien sûr cet enjeu d'évaluation des droits aux prestations, des populations potentiellement bénéficiaires de très grande taille, une augmentation du niveau, mais aussi de la qualité, bien sûr, des prestations, des problèmes très simples de gestion de stock, pour mettre à disposition des médicaments lorsqu'ils existent et qu'ils sont y compris gratuits parfois ou à prix intéressant comme on l'évoquait. Et puis ces questions de vieillissement qui nous touchent aussi avec, on aborde là les questions qu'on évoquait à l'instant, le besoin de lutter contre la corruption avant même de parler de la sécurité, je ne sais pas ce qui devrait précéder, l'émergence de marchés parallèles, de contrefaçons, sachant que, bien sûr, le manque de moyens va nécessairement exacerber toutes les dérives. Arriver à rejoindre, et c'est bien difficile, ce secteur informel de l'économie, tout à fait important pour ces pays. Alors, le changement climatique, dont on sait qu'il est d'actualité, je passerai dessus. La concentration de la pollution sur certains pays, juste un chiffre. En fait, la Chine, qui a ici vraiment 40% des décès de ce type dans le monde. Donc, vraiment des questions, comme je l'évoquais à l'instant, qui sont pour beaucoup partagées, finalement, avec les pays développés. Alors, dans certains cas, on est sur une réponse de type global, donc typiquement le changement climatique, mais parfois, la gouvernance globale a bien de la difficulté à réconcilier des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents. Deux exemples, par exemple, ce que l'on évoque ici, c'est l'idée qu'on va mettre des moyens importants, typiquement pour la surveillance du risque de pandémie grippale, et que ceci, eh bien, c'est autant de financements et de moyens que l'on n'aura pas pour d'autres domaines qui peuvent être prioritaires. Jocelyn évoquait en l'occurrence le paludisme, et effectivement, c'est un sujet très important. Et puis, l'autre sujet qui est très important, qui est aussi la recherche et développement, et son orientation dans une gouvernance globale vers des préoccupations qui sont peut-être plus celles des pays du Nord que celles des pays du Sud, et ceci, donc, se faisant au détriment de leurs priorités actuelles de santé publique. Alors, on a aussi, dans ces pays, et je pense que c'est important de le rappeler, des solutions qui sont locales et qui sont de très grand intérêt pour nous. Et je pense que c'est important de progressivement se rendre compte qu'il peut y avoir une interaction au-delà de ce premier panorama que je dresse et qui est assez connu. Alors, on parle d'innovation frugale. Et c'est effectivement un de ces chemins qui est pris par ces pays pour finalement simplifier, détourner un produit pour l'adapter à un besoin qui n'est pas encore satisfait et qui va progressivement, en fait, aller vers un produit qui peut être à très forte valeur ajoutée et qui sera proposé à un marché qui sera un marché important. Et on a ce qu'on appelle le processus d'innovation inversée, parce qu'en général, dans le cycle de l'innovation, on commence plutôt par les très hauts revenus qui vont ensuite progressivement, par la généralisation, bénéficier de ces effets d'échelle et donc de cette réduction des coûts et permettre à un nombre plus important de personnes de bénéficier de cette innovation. Là, on est dans une logique complètement inversée et c'est tout à fait intéressant de voir cette capacité d'adaptation à des pénuries. Alors, on a aussi un très fort développement de l'innovation numérique. Quand on compare avec l'usage, par exemple, de la télémédecine dans les pays développés, on est étonné de voir qu'il y a une adoption très rapide et très efficace dans ces pays émergents de tout ce qui est l'innovation numérique. On a un exemple, on a un exemple de système SMS qui a été introduit. On commence juste à y penser pour des reminders, comme on les appelle en France, en matière de prévention. Et puis, on a aussi l'idée d'aller vers des collaborations et partage d'expérience. Alors, petit clin d'œil à la doctorante qui va nous présenter son travail tout à l'heure. Je pense que c'est très important que nous ayons aussi une collaboration entre universitaires. Et là, on a un très joli exemple. finalement d'une collaboration entre des universités françaises et chinoises sur le thème du vieillissement, avec des vraies productions. Et puis, l'autre point sur lequel je voudrais terminer, en dernière partie de cette présentation, c'est justement les collaborations sur la mise en place d'évaluations économiques. Jocelyn a évoqué les études dites coefficacité, donc il y a tout un ensemble de travaux qui sont développés dans les instances qui font de l'évaluation des interventions, par exemple ce que tu évoquais, la gratuité de certains services. On va évaluer le bénéfice de la mise en place de la gratuité de certains services, c'est ce qu'on appelle des interventions publiques, ou des technologies de santé, c'est-à-dire soit des médicaments, soit des actes, soit des procédures et des dispositifs médicaux. Et on voit en l'occurrence qu'il y a déjà des échanges entre, je prends l'exemple de NICE International, qui a été mis en place assez récemment et qui travaille beaucoup avec la Chine pour mettre en place finalement une évaluation pour éclairer les choix publics d'investissement. Pour terminer, quelques éléments sur ce qu'on fait, effectivement, une évaluation économique. Jocelyn a évoqué le fait qu'on allait en reparler. Alors, on essaie de réconcilier ces deux hémisphères du cerveau que sont d'un côté les moyens financiers dont on dispose et puis de l'autre les besoins et les bénéfices que l'on essaie de générer par cette comparaison finalement que l'on va faire entre les bénéfices d'un nouveau médicament et puis le coût de sa mise en œuvre, aussi large soit-il. Et tout ceci repose, pour les économistes en tout cas, à la différence peut-être d'une approche qui serait plus comptable, sur le fait que ces moyens, on aurait pu les mettre ailleurs. Si on choisit une nouvelle technologie, elle va venir peut-être remplacer une technologie existante. La question, c'est de savoir si le delta de valeur qui est permis par cette nouvelle technologie est véritablement en relation avec ce qu'on aurait pu faire d'autre, finalement, avec ce financement qu'on a consenti pour cette nouvelle technologie. Donc c'est ce que les économistes appellent, et c'est une très jolie appellation, vous me l'accorderez, le coût d'opportunité, c'est du jargon qui est assez incompréhensible, et je le regrette beaucoup, mais c'est juste de dire on fait un sacrifice. Si on va choisir la technologie A, par exemple, on n'aura pas la B, et on mesurera le bénéfice de A à l'aune du sacrifice qu'on a consenti à ne pas avoir B. Alors si entre A et B, vous mettez deux médicaments, bien sûr, vous voyez tout de suite à quoi on peut faire référence, mais on peut aussi faire des comparaisons entre, dans un hôpital, le robot Da Vinci, qui coûte très cher, qui a une certaine valeur, bien sûr, génère des bénéfices, mais qui se fait au détriment peut-être de services de gériatrie qu'on aurait pu construire avec ce même financement. Donc cette notion, elle est vraiment très centrale pour nous autres économistes, et c'est la façon dont on va comparer justement les options qui sont possibles dans cet objectif qui est bien celui qui nous anime, c'est-à-dire l'éclairage de la décision publique pour aller vers, entre guillemets, les bons investissements. Et puis, on essaie de, bien sûr, non seulement chiffrer, alors on a toujours, comme le rappelait Jocelyn, cette vision de l'économiste qui va chiffrer les coûts, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir que quelque chose coûte tant. Je pense qu'au quotidien, on se rend compte que ce qui est important, c'est de savoir finalement la valeur apportée par cette nouvelle dépense et pas seulement son coût. Donc, pour avoir cette valeur, il faut mettre en relation les coûts et les bénéfices. Et ceci est effectivement ce que l'on essaie de faire. C'est difficile, il y a de l'incertitude, il y a du risque, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment la possibilité de séparer ces deux hémisphères du cerveau qui, malheureusement, ne se parlent pas beaucoup, parce qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'on ne peut plus faire comme si on pouvait tout avoir. On va devoir, de manière plus claire, choisir les investissements, et ceci vaut tout autant pour les pays émergents que pour les pays plus développés, et ceci peut être fait, entre autres, par un travail mené collectivement par des économistes, mais pas seulement. Et donc, on va essayer de regarder le bénéfice et le coût, et on le fera du point de vue de la collectivité, ce qui change un peu la perspective. Parce qu'en général, on va travailler sur la dimension individuelle, qu'apporte un médicament à un patient. Tout le travail qui a été mené à la Haute Autorité de Santé, c'est de se dire, bien sûr, ceci est majeur, mais il nous faut aussi savoir ce qu'apporte ce médicament à la collectivité dans son ensemble, puisque c'est elle qui le finance. Et ça paraît effectivement tout à fait complémentaire comme approche, et c'est ce qu'on a développé. Mais c'est un défi, arriver effectivement à avoir une évaluation de cette innovation. C'est toujours une innovation, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit effectivement sur des médicaments. C'est toujours une innovation qu'il faut évaluer, et c'est en général assez compliqué. Donc on doit essayer d'avoir une approche qui soit aussi globale que possible, c'est-à-dire qu'on en reste pas sur des indicateurs vraiment restreints de bénéfices, mais qu'on étende les bénéfices à tout un ensemble de dimensions qui peuvent être la qualité de vie, par exemple, qui peuvent être la satisfaction du patient qu'on essaie de faire rentrer. Et je sais que ce travail, on le fait tous ensemble. Je pense qu'on est beaucoup à travailler sur ces sujets, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, puisqu'il y a un ensemble d'économistes, et pas seulement, d'épidémiologistes, de tout un ensemble de disciplines qui sont représentées dans ce réseau européen qui s'appelle ENET-HTA. Et puis aussi à l'international, j'ai cité tout à l'heure cette structure. Donc voilà essentiellement ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Donc, M. Mérieux.
Bon, je confirme un pays que je connais assez bien, c'est la Chine. Et c'est vrai que la Chine que j'ai connue il y a 35 ans et celle d'aujourd'hui, 97% de la population a droit à une couverture. Ce qui est une révolution ahurissante pour ceux qui connaissent ce pays. Incroyable. Ils l'ont fait ça en 20 ans, en s'inspirant de la réforme gaullienne. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais, la réforme du général de Gaulle. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez parlé de qui va mettre tout le monde d'accord. C'est vrai que ces pays, la Chine et l'Inde, sont des pays quand même qui jouent également l'innovation. Maintenant, c'est plus l'innovation frugale. Il faut savoir que l'innovation frugale, que je connais un peu par l'Inde, certains savent que j'ai beaucoup donné là-bas, qu'elle est limitée aujourd'hui pour exporter par les affaires réglementaires qui sont une forme de protection des pays riches, en particulier nord-américains, qui fait que parfois je m'interroge, moi, à titre personnel, moi qui suis qui étais habitué à travailler dans ma jeunesse comme les Chinois et comme les Indiens, je me sens plus proche d'eux que maintenant la flopée d'affaires réglementaires que nous avons à avaler les uns les autres, qui devient parfois un peu trop. Alors nous, on est allé jusqu'à mettre le principe de précaution dans la Constitution. Alors là, il faut le faire. C'est quelque chose qui pour moi est une aberration. Troisièmement, quand vous parlez des problèmes de santé, moi je partage entièrement votre avis. Vous parlez des problèmes de corruption, moi je pense qu'ils sont également un peu inhérents, un peu à tout développement, hélas. Et il y a un problème, quand vous regardez les problèmes de santé, vous ne pouvez pas regarder uniquement que la partie médicale hospitalière. Il faut regarder également le problème de l'environnement, en particulier de l'eau. S'il y a un problème dramatique, on verra la deuxième partie, c'est le vecteur que porte l'eau non chlorée, non propre, qui est à 1 milliard d'habitants qui n'ont pas droit d'eau potable sur Terre. Et le problème des toilettes, c'est l'absence de toilettes pour 2,5 milliards d'habitants qui contaminent. Moi, j'étais à Dakar il y a peu de temps. Chaque matin arrive à l'hôpital de Dakar, mourant 700 malades de choléra. Et ils m'ont dit, c'est rien, la saison des pluies, c'est 1400. Qu'il faut les soigner en 24 heures parce que le lendemain, il y en a autant. Et c'est impressionnant. Ils viennent des faubourgs de Dakar qui est complètement contaminé par le choléra. Donc, c'est vraiment des problèmes qui sont dus à un environnement. Alors là, c'est... On ne parle pas des particules, on parle vraiment de gens qui sont en train de mourir par des contaminations. Et puis, encore une fois, je pense que ces pays comme la Chine et comme l'Inde vont régler leurs propres besoins. Ils sont nationalistes, et je les comprends, tout à fait. Donc, ils veulent régler leurs problèmes parce qu'ils ont la matière grise, ils ont les gens, ils ont la puissance financière. Et pour eux, c'est une arme à la fois pour faire face à leurs besoins internes, mais également s'en servir pour exporter dans les pays dans lesquels ils sont proches, et en particulier, vous verrez que la Chine sera de plus en plus présente en Afrique. Et quand Madame Libid, la ministre de la Santé, est venue au Cap avec rencontrer ses homologues ministres de la Santé africains, elle est venue avec des entreprises chinoises. C'est-à-dire que nos ministres vont seuls, elle est venue avec une flopée d'entreprises chinoises peu connues par nous, mais qui commencent à être très connues en Afrique. Donc c'est une bataille sanitaire, économique et éthique, les deux.
C'est tout lié, vous voulez dire quelque chose? Sinon j'aurais une question à attendant la réponse de M. Toulier, sur, vous avez évoqué le tourisme médical et la contradiction éventuelle avec les priorités de santé nationale. Vous pouvez nous éclairer un peu plus sur ce sujet-là?
Alors c'est une question et je pense qu'elle mériterait d'être vraiment, c'est un vrai sujet qu'il faudrait investiguer, mais certains observateurs disent que les ressources qui sont affectées sont souvent des ressources rares de médecins qui sont très bien formés et qui vont partir finalement dans des cliniques privées pour soigner des gens qui ont plutôt des moyens mais qui préfèrent malgré tout faire des interventions dans ces pays parce que c'est moins cher et quelque part c'est autant de médecins qualifiés qui ne vont pas travailler dans le système de santé nationale et donc du coup c'est presque la même chose que ce que l'on trouve dans la cohabitation de systèmes publics et privés à l'hôpital. Ça ressemble un petit peu à ça et donc on retrouve un peu ces débats qu'on a pu avoir il y a quelque temps déjà en France. Mais pour ces pays-là, c'est beaucoup plus explicite, beaucoup plus inquiétant, puisque les ressources sont vraiment très rares.
Ils partent plus, mais ils restent voilà. Et ils travaillent pour ça. Les étrangers qui viennent. Voilà. Alors, M. Toulier ?
Non, je voulais juste rebondir sur la question, effectivement, à mon avis, cruciale de l'environnement, et qui, je pense, reflète bien la difficulté des recherches dans ce domaine, c'est-à-dire... Quelle est la part liée à l'environnement? Quelle est la part liée à la pauvreté? Quelle est la part liée au cercle vicieux entre environnement et pauvreté? Et notamment sur l'accès à l'eau, je pense que c'est un problème vraiment crucial. Si on donne l'accès à l'eau à un village isolé, on réduit les maladies diarrhéiques de 80% dans le village. Donc, et on augmente l'espérance de vie de beaucoup, puisque ce sont les enfants qui sont principalement affectés. Donc, je pense que cette question n'est pas facile à traiter. Et est-ce que la pauvreté est la principale cause d'une mauvaise santé ou est-ce des questions d'environnement? C'est assez compliqué à expliquer.
C'est une approche qui peut être que globale. Hein. On ne peut pas aborder les problèmes uniquement avec les médicaments si on ne règle pas le problème de l'eau, si on ne règle pas le problème de l'alimentation, de la nutrition et de l'éducation. C'est un tout. Hein. C'est vraiment, mais c'est un tout. Et on ne peut pas taper sur une touche sans taper sur les autres. Et c'est lorsque l'on joue sur toutes les couches, y compris celle, je reviens, de la sécurité physique. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être parlé, on a éradiqué la polio, sauf à trois endroits. Pakistan, Afghanistan, et pour des raisons que les vaccinateurs se font tuer, hein, parce qu'ils ne répondent pas aux dogmes. En Syrie, vous avez eu 22 cas, je crois, de polio l'année dernière. Parce que non vaccinés, et pour cause, des gosses. Et vous avez le Nigeria avec Boko Haram qui interdit la vaccination. Donc on a besoin de toute cette approche globale pour faire face aux défis de santé publique. C'est à la fois passionnant, mais difficile.
Quand même, avec votre expérience, avez-vous un changement? Ça a amélioré? On va dans cette approche globale ou pas?
Les gens sont tous intelligents partout, vous savez, tout le monde sait que c'est une approche globale, il faut avoir des constructions, il faut avoir accès à l'eau, il faut avoir accès aux toilettes, il faut avoir accès à l'éducation, ça on le sait. Ça demande des moyens financiers, ça demande une volonté politique et ça demande d'avoir un développement économique concomitant. C'est facile à dire en une conférence, beaucoup plus difficile à vivre dans le quotidien. Surtout qu'on parle, vous n'avez pas parlé également du phénomène mondial de l'urbanisation, hein, qui devient maintenant, avant nous étions... Quand je suis né, on était 2 milliards dans le monde et tout le monde était à peu près rural. Quand je finirai ces jours, tout le monde sera pratiquement urbain. Et c'est vrai, mais ça pose des problèmes considérables, surtout dans les banlieues où il n'y a aucune approche sanitaire globale.
Alors, on a la salle pleine, on est très content pour ça. Est-ce qu'il y a des questions du public? Personne? Oui, monsieur, allez-y. Oui.
Merci à tous pour vos exposés. Lige Rochex nous a rappelé qu'on parlait des émergents, donc de pays qui ne sont pas en développement, mais sont déjà avec des moyens financiers qui souvent ne dépendent pas de l'aide des pays riches, on va dire, d'une façon générale, avec des problématiques qui sont sans doute un petit peu différente, avec des grandes différences d'une population, enfin, entre les personnes, avec des très riches et des très pauvres, etc. Et en fait, des pays qui peuvent prendre en charge leur santé. Et donc la question qu'on pose aujourd'hui, c'est quoi leurs bons investissements ? Qu'est-ce que nous disent aujourd'hui les économistes ou les analyses qu'a évoqué Lige Rosec tout à l'heure sur est-ce que c'est plutôt de la prévention et on a parlé d'éducation, etc. Est-ce que c'est plutôt du soin, en sachant que ça après les économistes, il y a le politique qui fait qu'il vaut mieux soigner des gens tout de suite que prévenir des choses pour dans 10 ans. Qu'est-ce que disent vos analyses économiques sur est-ce que c'est le tabac, est-ce que c'est etc. ou est-ce que c'est effectivement d'autres choses qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui,
Monsieur Tollier? Oh, Monsieur Roche, Madame Roche, vous voulez?
C'est à vous de choisir. C'est une réponse impossible, c'est pour ça que je commence. Non, la difficulté, c'est encore une fois de prioriser. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé important de parler d'évaluation économique au sens large. C'est parce que je pense qu'à un moment donné, bien sûr qu'on aura envie de faire tout ça, bien sûr qu'on veut réduire le tabac, faire de la prévention, faire plus de soins, et surtout penser effectivement aux questions environnementales, parce que on est tous conscients de l'importance des déterminants autres que les soins de santé. Je l'avais évoqué pour l'éducation, mais je pense que M. Mérieux l'évoque pour l'environnement et en particulier la question de l'eau qui est fondamentale. C'est vrai qu'il y a peut-être eu de ma part une dérive COP21 sur la pollution, mais la question de l'eau est encore plus fondamentale peut-être dans certains pays que la question de la pollution atmosphérique. Enfin, ça dépend du pays. Mais je pense qu'il n'y a que l'évaluation économique au sens global du terme, c'est-à-dire vraiment une évaluation de la valeur pour la collectivité d'un investissement par rapport à un autre, qui pourra éclairer le décideur qui, in fine, sera seul à faire le choix. Je pense qu'on ne peut pas, à ce stade, répondre autrement que par l'importance de l'évaluation. En tout cas, pour ma part, je n'irai pas plus loin.
Oui, alors j'ajouterais déjà que la situation est probablement spécifique à chaque contexte, mais pour formuler une réponse globale, je dirais que la pauvreté est l'une des priorités quand même. Si on regarde la Chine actuellement, la Chine se développe de façon accélérée, avec toutes les conséquences environnementales qu'on connaît et toutes les conséquences de santé qu'on connaît. A priori, la priorité du modèle chinois, c'est de développer économiquement le pays et donc d'éliminer en partie la pauvreté pour accéder à un état de santé correct et à une couverture de la population en santé qui soit globalement satisfaisante. Donc je pense que la question principale n'est pas forcément directement un problème de santé en particulier, mais une question transversale qui peut être un problème économique ou la pauvreté, quoi.
Encore en question ? Personne ? Oui, madame, ça va ?
Vous avez parlé de la Chine. Vous avez dit que maintenant, il y a 98% des personnes couvertes. Je voudrais savoir le détail. Est-ce que c'est une couverture privée, obligatoire, ou si c'est une payante ? Sous quelle forme ils l'ont fait ? Comme la sécurité sociale va en France, ou, enfin, sous quelle forme ? Merci.
Oh, c'est public, hein, tout ce que je sais. C'est public, mais c'est pas les mêmes soins que chez nous. Et les Chinois haut de gamme, qui ont beaucoup d'argent, eux, se soignent à côté. Mais c'est pour les campagnes rurales, c'est quand même un événement à tremblement de terre. Hein, parce qu'ils se soignent. Et ce qui est très bien chez eux, c'est qu'ils ont la médecine occidentale et leur médecine qui développe beaucoup, avec beaucoup de recherches scientifiques sur les principes actifs de ces plantes. C'est l'artésime, ça vient de chez eux, hein, de la Chine, et c'est le principal produit, je crois, pour la malaria aujourd'hui.
C'est le prix Nobel de médecine de cette année, est chinois, sur l'artémisine.
Oui, oui.
Merci beaucoup à tous, on remercie les intervenants avec un applaudissement.